Bonjour, ce temps de fête, de Pâques, nous avons pensé à Rencontre spirituelle aborder un sujet en apparence difficile, mais qui n'est pas tellement difficile. C'est celui du plus grand mystique, peut-être, selon certains, le plus grand mystique d'Occident, un dominicain, Maître Eckhart, qui serait mort vers l'an 1327. On n'est pas trop sûr s'il est né vraiment cette année-là. C'est assez curieux, parce que c'est un homme qui était très illustre en son temps, et qui serait né en 1260, ce qui lui donnerait l'âge 67 ans quand il est mort. Maître Johann Eckhart, en allemand, ou Maître Eckhart, comme on dit en français. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Souvent, dans les réflexions qu'on entend sur l'Église chrétienne dans son ensemble, et particulièrement sur l'Église catholique, c'est que finalement, c'est une Église plus ou moins humanitaire, et puis peu préoccupée de mystique. On connaît vaguement les noms de Jean de la Croix et même de Thérèse d'Avila, qui sont pourtant très illustres, et de quelques autres comme ça, mais on hausse les épaules et on se dirige vers l'Orient. On va vers le bouddhisme, on va vers l'hindouisme, et dans ses écrits des grands maîtres de la pensée, en particulier même aujourd'hui du bouddhisme zen du Japon, n'est-ce pas, on se délecte dans des dédales intéressants, très mystiques, et on croit qu'il n'y a rien dans notre Église. Mais pourtant, même les bouddhistes, même les hindouistes les plus savants, les plus avancés dans la réflexion spirituelle sur ce qu'est Dieu, qui est Dieu, sur le sens profond de notre existence, sur cette recherche de Dieu qui est au fond notre existence, eh bien Maître Eckhart a écrit des choses sublimes. Certains catholiques hésiteront à écouter une émission sur Maître Eckhart, car le pape Jean XXII, pas Jean XXIII, bien Jean XXII, a condamné en 1329 28 articles extraits de ses œuvres qui auraient été imprégnés de panthéisme. Mais on lit bien dans le dictionnaire de théologie catholique, dictionnaire publié presque exclusivement par des prêtres, avec l'assentiment du cardinal Louis Dubois, archevêque de Paris à l'époque. Il a été applaudi, ce dictionnaire, en six gros volumes. Mais quand on lit le petit article qui est écrit à Maître Eckhart, on dit ce qui suit. On ne peut pas dire pourtant, malgré les condamnations là, on ne peut pas dire pourtant que dans son fond, le mysticisme de Maître Eckhart soit panthéiste. Et l'on reconnaît généralement, de nos jours, que l'école mystique allemande, c'est une immense école mystique, immense, remplie de grands mystiques, il faut être mis au courant de ça. D'ailleurs, je vous ai parlé déjà de Suzeau, de Toller, de quelques autres. Eh bien, aujourd'hui, c'est le grand maître, Maître Eckhart. Donc, dans ce dictionnaire des connaissances religieuses publié en 1925, chez un grand éditeur catholique, le Touzé, sous la direction de l'abbé Bricou, un savant prêtre séculier de Paris. Donc, on ne peut pas dire que dans son fond, le mysticisme d'Eckhart soit panthéiste, et l'on reconnaît généralement que l'école mystique allemande du XIVe siècle lui est fort redevable. Oui, elle lui est fort redevable. D'ailleurs, pour bien comprendre, je vais essayer d'être le plus simple possible pour aborder une question difficile. Il faut dire que je m'intéresse à Maître Eckhart depuis tellement longtemps que je me demande quand est-ce que j'ai commencé. Je retrouve un livre, Maître Eckhart, Traités et sermons, traduit de l'allemand avec une introduction là, de Condillac, dans la belle collection chez Hobby, Philosophie de l'esprit. J'avais acheté ça en 1943. Alors, c'est pas d'aujourd'hui que je m'intéresse à Maître Eckhart, que je me touche profondément, moi. Alors, la mystique, là, qu'est-ce que c'est? On parle beaucoup de mystique, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche de Dieu au plus intime de soi. Oui, la recherche de Dieu au plus intime de soi. Et cette mystique, bien, se retrouve par-delà les limites des religions, je viens de vous le signaler en passant. C'est un pasteur luthérien, Rudolf Otto, qui possède une profonde connaissance de la mystique orientale, puis de la mystique allemande, pas tout seul, hein. Dont Henri Le Sceau, bénédictin, qui a poursuivi l'œuvre du fameux père Montchanin, Thomas Merton, le fameux trappiste américain aussi, qui a écrit toute une série d'études sur les traditions religieuses de l'Asie, notamment le bouddhisme, le taoïsme. Alors, ce luthérien, Rudolf Otto, a ouvert la voie par ses travaux sur ce problème du sacré. Ça a eu une large audience, c'était très très écouté, ça. C'était suivi par une vaste synthèse sur la mystique qui nous vient d'Orient, puis la mystique immense qui nous vient d'Occident et que l'on ignore. Je dirais que 99% des catholiques n'ont aucune idée, dommage, de cette grande recherche spirituelle profonde. Et ce luthérien a publié aussi une étude sur la religion de la grâce en Inde et chez les chrétiens. J'aimerais vous rappeler que Jean 23, dans son désir d'ouvrir l'Église au monde, là, il a invité les catholiques à considérer loyalement, là, avec un cœur ouvert, des voies vers Dieu autres que celles de leur propre foi. Pour pas avoir trop peur. Oh, c'est mieux d'être bien guidé, c'est mieux de lire de bons livres, c'est mieux de pas sombrer dans le bouddhisme et l'hindouisme et le zen, c'est sûr. Faut rester attaché profondément à cette personne du Christ. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont eu la chance exceptionnelle de regarder hier à la télévision, à Bouillon de Culture, Bernard Pivot, qui avait sur son plateau plusieurs catholiques remarquables, et en particulier sœur Emmanuelle, une sœur de Notre-Dame de Sion, de 87 ans, qui est d'une vitalité, d'une jeunesse perpétuelle, et qui a donné 20-25 ans de son temps au bidonville du Caire. Elle a vécu parmi les déchets. Vous savez, sa maison était entourée de déchets puants. La maison, une case, un petit logis pauvre. Et cette femme nous parlait de Jésus-Christ, qui était son amour. Et elle a dit, le sourire aux lèvres, elle était entourée d'hommes, elle a dit, vous savez, je ne me suis pas mariée parce qu'après avoir découvert Jésus, je me suis bien rendu compte que vous, les hommes, elle avait un beau sourire, elle a dit, vous, les hommes, vous êtes bien petits. Et c'est dit d'une façon tellement charmante qu'ils n'ont pas pu que rire et sourire à cette femme admirable, pleine d'amour pour Jésus-Christ. Alors ne quittons pas Jésus-Christ pour aller dans des dédales où il serait absent. Donc Jean 23 nous a invités, nous catholiques, je le répète, à considérer loyalement des voies vers Dieu autres que celles de leur propre foi, de notre propre foi. Et de même, Paul VI, ce grand pape admirable, oui, petit de taille, mais admirable, que j'aime beaucoup, eh bien, le jour de la Pentecôte, 1964, ce n'est pas d'aujourd'hui, il y a plus de 30 ans, il a annoncé son projet de constituer au Vatican un secrétariat dont le but serait d'ouvrir le dialogue avec les religions non chrétiennes. Paul VI, n'oubliez pas ça, a engagé les chrétiens à sentir le souffle de l'Esprit, oui, de l'Esprit Saint, chez les représentants de ces religions-là, puis de prendre contact avec ces représentants-là. Je vous rappelle donc que dont Henri Le Sceau, bénédictin, Père Montchanin aussi, qui ont consacré des efforts au rapprochement avec l'hindouisme. Je vous répète que Thomas Merton, trappiste américain, qui a écrit toutes sortes d'études, Il est frappant d'ailleurs de constater que parmi les mystiques d'Occident auxquels ces auteurs se réfèrent, mais le nom de Maître Eckhart justement revient le plus souvent. Oui, c'est celui qui revient le plus souvent. L'invitation que nous adresse Maître Eckhart au détachement total. C'est très difficile de le comprendre quand il écrit ces choses-là, mais c'est très beau. Ça rejoint le bouddhisme dans les plus profonds, les écrits les plus profonds du bouddhisme qui nous épatent souvent et nous émerveillent et nous étonnent. Eh bien, l'invitation de Maître Eckhart au détachement, son insistance aussi, sur cette percée jusqu'au Grund, comme il dit en allemand, l'abîme divin. Oui, l'abîme divin, le désert. Font de lui l'interlocuteur tout désigné des spirituels d'Asie, pour qui ce qu'ils appellent la vacuité ou le néant marque l'aboutissement de leur expérience religieuse. Il faut bien penser d'ailleurs que ces termes doivent être soigneusement explorés et analysés afin d'éviter des rapprochements trop forcés. On va penser peut-être, quand je dis ces choses-là, quelle idée Raymond Bourgoin-Champagne a-t-il de nous parler de ce frère prêcheur, de ce dominicain vieux de plus de 6 siècles. Il lui a pas été difficile, lui, de renoncer à toute joie humaine. Il était soutenu, Maître Eckhart, par des grâces de contemplation que nous-mêmes, et moi le premier, nous ignorons. J'en connais la vérité par les témoignages des saints et des mystiques. Mais je ne la connais pas d'expérience. Ceux qui vont chercher leur nourriture spirituelle vers l'Asie, vers Katmandou, puis le Tibet, etc., peuvent bien se réjouir d'en trouver chez lui comme un avant-goût. Alors que nous importe à nous, les simples croyants, toute cette réflexion? Or, est-ce que nous sommes si enclins vraiment à cette espèce de minimum de renoncement qu'exige la plus humble foi chrétienne pour ne pas avoir besoin d'être appelé plus haut par la parole de Maître Eckhart et par son exemple, l'exemple des autres mystiques chrétiens? D'autre part, si nous sommes privés sur cette terre de toute joie goûtée, sentie, n'est-ce pas un réconfort de savoir au moins que cette joie spirituelle et mystique existe? C'est le reflet de celle qui nous appartiendra un jour après notre grande naissance au ciel. Eux qui la goûtent dès ici-bas. Maître Eckhart a bien des fois insisté auprès de ceux qui ne comprennent pas son discours pour qu'ils ne s'en inquiètent pas. Il n'a pas manqué d'indulgence pour les imparfaits. Il a dit « Certaines gens voguent sur la mer n'ayant le vent qu'à demi et la traversent pourtant. Alors on peut avoir un petit vent. Mon cas, on finit par traverser. » Eux, ces grands mystiques ont des belles brises magnifiques, profondes, qui remplissent leurs voiles, hein, puis traversent. Ah, les heureux et les chanceux. Sur un point seulement, Maître Eckhart s'est montré d'une totale exigence. Il s'est situé là dans la ligne unique de tous les spirituels chrétiens, même de ceux que l'on nomme pas spécialement des mystiques comme, disons, François de Sales, dont je vous ai parlé, ou Pascal. Pour ne pas parler des saints unanimes, finalement. Hein? Car c'est là le fondement même du christianisme. Qu'est-ce que c'est que ce fondement? C'est accepter en toutes circonstances, le plus généreusement possible, la volonté de Dieu sur soi. Oui, Dieu veut toujours notre amour et que nous répondions toujours à son amour, qui est là, lui, son amour, toujours, toujours. Et c'est sa volonté la plus profonde, que ta volonté soit faite. C'est là le plus nécessaire, le plus difficile. Est-ce qu'il est alors superflu d'entendre Maître Eckhart répéter avec une telle conviction, une telle insistance, une telle chaleur d'accent cette vérité fondamentale? Maître Eckhart a montré, comme peu de maîtres avant et après lui, le double aspect de l'Évangile. Le premier aspect, on le retrouve dans Saint Luc au chapitre 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Puis dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 11, Jésus dit quelque chose de superbe, sublime, c'est l'autre aspect. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Chose mystérieuse, la croix s'accompagne de la joie. Porter sa croix, c'est-à-dire se dépouiller. Aller jusqu'au fond du détachement. Fait que le vide qui s'est opéré, qui ne détruit pas notre personnalité, nous permet de nous unir à Dieu qui est toute joie. Je répète cette parole de Jésus, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est tellement beau. Maître Eckhart est né vers 1260, comme je vous ai dit, d'une famille de chevaliers dont la résidence se situe à Ockheim. C'est à 2 heures de marche au nord de Gotha, dans la Thuringe, que Sainte Élisabeth, qui était l'épouse du landgrave Louis IV, a comblé de sa charité au premier quart du siècle, de ce siècle, le 13e siècle. 1260, qu'est-ce qui se passe? Il y a les rêves apocalyptiques de Joachim de Flore, qui était un prêtre de Calabre, dans le sud de l'Italie. Des rêves apocalyptiques qui prévoyaient bien des choses étranges. Ça entourait les idées mystérieuses et des visionnaires aussi qui se lèvent en Provence, dans le sud de la France, qui prêchent la pénitence, tandis que des processions même de flagellants parcourent l'Italie, le sud de l'Allemagne. Oui, le sud de l'Allemagne, c'est là qu'il est né. Puis la Bohème aussi. Alors l'empereur Frédéric II, Stauffen, qu'on appelait le rusé renard, tout au long de son règne, abreuve les papes de toutes sortes de choses et d'amertume, meurt 10 ans avant la naissance de Maître Eckhart. Il meurt en 1250, mais son bâtard, Manfred, prétend lui succéder. Alors Alexandre IV, le pape qui règne dans la souffrance, s'y oppose, il le chasse de Rome. Alors quand, impuissant à remédier aux troubles de l'Église, le pape succombe au chagrin en 1261, même son successeur Urbain IV ne pourra pas rentrer dans la ville, dans sa ville de Rome. En France seulement, Louis IX, le pieux Louis IX, qui est juste et sage, présente à la chrétienté le modèle des rois. Alors les constitutions des moines dominicains, car Maître Eckhart est dominicain, n'autorisent pas l'entrée dans l'ordre avant l'âge de 15 ans, à moins de dispense spéciale. Mais les textes permettent seulement de dire que Maître Eckhart, ou Eckhart de Ockheim, entre jeune au couvent d'Erfurt, proche de son lieu natal. Et ce n'est pas un drame d'entrer si jeune dans les ordres religieux pour bien des gens. Bien des gens deviennent admirables étant entrés jeunes. C'est curieux à dire. Alors, dès son aurore, l'ordre dominicain, qui ne paraît, a reçu de l'Allemagne des novices de choix. Quand Dominique, le fondateur des dominicains, est mort en 1221, donc moins de 40 ans avant la naissance d'Eckhart, c'est Jourdain de Saxe, dont je vous ai parlé aussi, que le chapitre général appelle pour lui succéder. Là, il est le fils d'un seigneur souabe, souabe, c'est du sud de l'Allemagne, dans la région où est né Maître Eckhart. Parce qu'il faut dire que le sud de l'Allemagne, dans ce temps-là, c'était un royaume, hein, en soi. On l'appelait souvent le royaume de Souabe. Alors le fils d'un seigneur Souabe, Albert de Lohengrin, que la postérité va nommer Saint-Albert le Grand, oui, Saint-Albert le Grand, de son vrai nom Albert de Lohengrin, fils d'un seigneur, eh bien a donné à l'ordre un grand prestige par l'éclat de son enseignement à Paris et à Cologne. Oh, Albert le Grand, quel homme admirable, et un grand dominicain. Et ce n'est pas un si moindre mérite que d'avoir formé un disciple qui va rayonner d'une gloire plus grande encore. Qui? L'Italien Thomas d'Aquin, dont je vous parlerai l'an prochain, le 29 janvier. Ce sera sa fête et on en parlera longtemps. Alors, qui dit frère prêcheur, dominicain quoi, dit enseignant, hein, donc instruit, puis sûr de sa doctrine, hein? On dit que c'est l'ordre des docteurs en théologie, en philosophie. Alors, le novice n'apporte pas avec lui, évidemment, la connaissance du latin, de la logique, de la rhétorique. Alors, on va les lui enseigner d'abord. Puis, un an de noviciat aide beaucoup Eckhart, Johann Eckhart. 2 ans d'application aussi à toutes sortes de... à l'office divin, d'abord, pour réciter ça, l'étude des constitutions de l'ordre, 5 années de philosophie, suivie de 3 années de théologie, 1 an pour le cours de Bible, 2 ans pour les sentences de Pierre Lombard. Que d'études, hein? Parce que les sentences de Pierre Lombard, c'est une espèce de manuel de théologie dont tous les maîtres donnent un commentaire à leurs élèves. C'est ça, les sentences de Pierre Lombard. Alors, quand ils ont accompli tout ce cycle, les jeunes dominicains, remarqués pour leur piété et leur intelligence, sont envoyés à quoi? Au Studium Generale de leur province. Studium Generale? Bon, disons, pour des études générales, afin d'approfondir encore davantage leur science des Écritures, de la Bible, quoi, et de la théologie. Alors, le Studium Generale de Cologne, dont dépend Erfurt, où il est, là, n'a pas été fondé par un personnage moindre que Maître Albert le Grand lui-même, en 1248. Alors, après une existence toute remplie par l'enseignement et l'étude, c'est aussi dans cette ville de Cologne que le vieux maître est venu passer les dernières années de sa vie. Et c'est là qu'il est mort, le 15 novembre 1280, comme je vous l'ai raconté, le 15 novembre dernier. Le jeune Eckhart de Hochheim est donc envoyé dans la capitale rhénane, en Rhénanie, donc c'est la région voisine de la Hollande et de la Belgique, là, dans le nord, vraisemblablement au cours de la décade qui a suivi. Alors, Cologne est devenue une ville célèbre, si tu mis directement à l'empereur, son archevêque est un des 7 princes électeurs. Hein? Oui, les archevêques étaient des princes électeurs. C'est dans la ceinture là, solide de ces remparts de Cologne. C'est aussi la ville où les pèlerins viennent en foule vénérer quoi? Ça va faire plaisir à une sœur qui m'a déjà écrit. Les reliques des 3 rois mages, bien oui. En fait, il y avait des reliques des rois mages, on ne disait pas 3. Alors Cologne, la pieuse ville, Cologne au Saint-Église, oui. C'était une ville magnifique, la cathédrale du maître d'œuvre Gérard, dont l'archevêque Conrad de Hochstaden a posé la première pierre le 15 août 1248, est encore en construction. Dans tous les sanctuaires, le jeune Eckhart a prié sans doute. Avec plus de ferveur encore, peut-être, dans l'église neuve des frères prêcheurs, que maître Albert le Grand, saint Albert le Grand, a fait construire, et où il repose. Et là, on ne sait rien de maître Eckhart jusqu'à la mention qui le désigne comme prieur d'Erfurt et vicaire général de Thuringe. Preuve de l'estime qu'avaient pour lui ses frères en religion, puis ses supérieurs, les dominicains. Alors il a assumé nécessairement ses charges avant 1298, puisque le chapitre général de cette même année, 1298, en interdit le cumul. Il n'y a pas le droit d'avoir 2 charges. Un peu plus tard, en 1302, donc il a quoi? Mon Dieu, 40 ans. Bien, il nous est présenté avec le titre de maître en sacrée théologie. Au tournant du siècle, il a donc été envoyé à Paris. Premier centre intellectuel de la chrétienté, bien oui, c'était Paris dans ce temps-là, pensez-y. Même Oxford et Bologne, pourtant déjà célèbres, ne pouvaient rivaliser avec Paris. Hein. Rome a le pape, d'une part, l'Allemagne a l'Empire, puis dans l'héritage de Charlemagne, mais la France n'est pas moins partagée parce que c'est elle qui possède la grande souveraineté, si on peut dire, c'est l'Université de Paris. Alors, Maître Eckhart de Hochheim traverse à pied les campagnes françaises, la vallée de la Marne, ou la vallée de la Seine, pour gagner par étapes, de couvent en couvent, ben oui, c'était plein de couvents déjà, la capitale de toutes les sciences, Paris. Et en 1297, le roi Louis IX a été inscrit au catalogue des saints et canonisé. Après Philippe III, c'est Philippe IV qui maintenant règne. Puis il ne ressemble pas à son pieux grand-père. Une fois de plus, il y a un conflit entre le pape et un prince rebelle qui déchire la chrétienté. Et alors, pour entrer dans Paris, Eckhart de Hochheim suit la rive droite de la Seine, il franchit l'enceinte de Philippe Auguste par une porte, à l'intérieur des remparts, il se dirige où? Il se dirige vers la rue Saint-Jacques, où sont encore les Dominicains aujourd'hui. Puis il aperçoit au passage la belle Sainte-Chapelle, où on garde la couronne d'épines et des reliques du Christ. Et nous verrons ce qui va se passer à Paris. On peut dire que, quand Maître Eckhart arrive à Paris, les maîtres les plus illustres sont morts. Thomas d'Aquin, Bonaventure sont morts en 1274, avant même le vieux maître Albert le Grand, Saint-Albert le Grand. Donc, 3-5 sont morts. Les disciples de ces gens sont moins originaux. Ils gardent assez de vigueur d'esprit, cependant, pour penser à leur tour les grands problèmes. Ils maintiennent au mouvement intellectuel son intensité. Puis le thomisme marque de son empreinte quelques-uns des maîtres les plus fameux de l'université parisienne au dernier quart du siècle. Il y a là parmi eux Gilles de Rome. Curieux nom, puis ça me rappelle un confrère réalisateur aux émissions religieuses qui s'appelle Gilles de Rome. Godefroy de Fontaine, Pierre d'Auvergne, qui tous trois vivent encore lorsque Maître Eckhart arrive donc en France. Il y a aussi le Majorquais Raymond Lulle, dont je vous ai parlé le 30 juin dernier, théologien, apôtre, missionnaire et mystique, c'était en fait un laïc, et Maître Eckhart a dû le rencontrer. Et ainsi, après avoir passé les premières décades de sa vie dans le climat mystique qui régnait en Allemagne, Maître Eckhart, qui est maintenant âgé d'un peu plus de 40 ans, se trouve plongé dans le milieu intellectuel le plus vivant de la chrétienté. Il est au croisement même de ces grands courants. Il connaît toutes les doctrines, il les brasse, il les assimile plus ou moins à sa propre pensée. Lorsqu'il quitte l'université, il a obtenu le titre qu'il portera désormais, Maître Eckhart. Alors, ce départ a lieu en 1302. À la Pentecôte de 1303, le chapitre général de Besançon, chapitre des Dominicains, a résolu de séparer la grande province dominicaine d'Allemagne en deux, Saxonia et Teutonia. Voilà, les Saxons puis les Teutons. Et le couvent d'Erfurt, où il était, appartient à la première Saxonia. Maître Eckhart est élu provincial de Saxe, donc. Puis, quelques années plus tard, en 1307, on le nomme de surcroît vicaire général pour la Bohême, en Tchécoslovaquie. Alors, le voici donc à la tête d'une immense province qui va des Pays-Bas, imaginez, nord de l'Allemagne, jusqu'à la région de Prague, régissant combien de monastères? 50 monastères de frères dominicains, ou de moines dominicains, si vous préférez. Et 9 monastères de religieuses. Alors, il parcourt tout ça, en tout sens, comme le veut sa charge, à pied, naturellement. Oui, à pied. Mais oui, dans ce temps-là, il faut bien se penser. Il faut toujours comprendre que ça devait être effrayant de se promener comme ça. La pluie, la neige et tout. Des lieux et des lieux, en somme, si vous voulez, des kilomètres et des kilomètres. Et même s'il se voit obligé, comme plus tard, son disciple Henri Suzeau, dont je vous ai déjà parlé, je vous l'ai dit, il va patauger avec ses gros souliers puis des vêtements retroussés, parce qu'il porte quand même la tunique des moines, blanche, oui, à travers les roseaux, des terres marécageuses, la route ne lui paraît pas longue. Pourquoi? Parce qu'il la parcourt avec Dieu. Il médite sur ce qu'il va dire pour la plus grande édification de ses filles et ses fils spirituels, les moniales et les moines dominicains. Ce sont les moniales dominicaines qui ont écrit ces sermons. Je les ai devant moi, 3 gros volumes, des sermons magnifiques. Oh, pas facile à lire, je vous préviens. Ne vous achetez pas ça si vous voulez pas vous casser un peu la tête. Ah, c'est aux éditions du Seuil, à Paris. Maître Eckhart, sermon, introduction et traduction de Jeanne Ancelet Eustache. L'introduction de Jeanne Ancelet Eustache. Hein, Eustache, c'est H-U-S-T-A-C-H-E. C'est pour ça que je prononce Eustache et non pas Eustache. Hein. C'était publié en 1974. Ça date déjà, mais je crois qu'on les trouve encore sur le marché. Ça a dû être réédité parce que c'est trop important. Alors, c'est au cours de cette période qu'il rédige son livre de la consolation divine, un très, très beau livre. Ses écrits, ses sermons, surtout, ont rendu Maître Eckhart célèbre. Il faut admettre que c'est absorbé par les mystères de Dieu, si absorbé que par les mystères de Dieu que soit son esprit, il fait preuve toujours de valables qualités d'administrateur. Il est un homme complet, comme Thérèse d'Avila, qui administrait des tas de monastères et qui avait des idées sublimes, superbes, et qui avait des expériences mystiques profondes. Alors la province du Sud, Tétain veut l'avoir aussi comme supérieur, ça lui ferait un domaine immense à gérer, ce serait pas possible. Alors le chapitre général de Naples en 1311 n'accepte pas ce choix. D'autres vues sur Maître Eckhart. Une seconde fois envoyé à Paris, reprend sa chaire de théologie à l'Université de Paris. Depuis ce premier séjour, eh bien, Don Scott, le fameux Don Scott, est venu y enseigner de 1305 à 1308 avant d'aller mourir à Cologne, lui aussi, à la fin de cette même année. Et l'ordre dominicain compte sur Maître Eckhart, sur la vigueur et la subtilité de sa propre logique. Alors, on ignore la durée de ce second séjour à Paris. Assez court, hein? Car dès 1314, le voici de nouveau, Maître Eckhart, à Strasbourg. Il est prieur, prédicateur, professeur de théologie, pour les étudiants de son ordre. Je vous signale ces petits détails pour que vous sachiez que nous, chrétiens, quand nous avons de grands mystiques, nous n'avons pas de grands mystiques qui se tiennent debout toute leur vie sur une jambe et appuyés sur un bâton. Nous n'avons pas de grands mystiques qui sont perdus dans les dédales des choses obscures et qui nous échappent à nous, les profanes. Nos grands mystiques sont des gens concrets, les pieds à terre, et qui savent comprendre l'être humain, et qui savent comprendre ce que c'est qu'un beau lever de soleil, une plante qui pousse, le regard d'un enfant, et la beauté des choses, des choses que Dieu a créées. Un peu plus tard, à une date incertaine, Maître Eckhart va enseigner à Cologne, et où Saint-Albert-le-Grand et Saint-Thomas-d'Aquin s'étaient illustrés. Alors, Henri Suzeau, qui a été l'élève d'Eckhart à Cologne, nous avoue qu'il n'éprouve que dégoût pour ceux qui s'adonnent aux arts et aux sciences. Maître Eckhart est dur. Si on croit Henri Suzeau, le bienheureux Henri Suzeau, même chez les étudiants en théologie, l'éloquence se tourne facilement une espèce de fiel, il y a une espèce d'excès. Là. Et ces hommes, pleins d'orgueil, ne vise qu'aux honneurs et aux biens terrestres, prétend Maître Eckhart. Il accuse ses confrères, ses élèves. Il dit ce n'est pas la sainteté de leur vie qui inspire leur doctrine, mais la prétention et la jactance. Beaucoup pensent d'abord à emplir leur bourse. Rares sont les hommes d'études qui s'appliquent à la contemplation des choses d'en haut. Maître Eckhart, que le bienheureux Henri Suzeau admire tant, je vous en ai parlé le 23 janvier, compte évidemment parmi ceux-là. On voit que le doux Suzeau ne se montre pas indulgent pour son milieu. A-t-il tout à fait raison? Il est comme Maître Eckhart, il accuse. Ils sont dépassés par la platitude de ceux qui s'intéressent à Dieu et qui n'en vivent pas. Alors voilà la conjecture historique dans laquelle se déroule l'âge mûr de Maître Eckhart et sa vieillesse. Il a connu tous les événements qui vont développer des conséquences absolument funestes longtemps encore après sa mort. Et puis, ces événements ont trop affecté tous ses contemporains pour que lui-même n'en ait pas souffert. Hein. L'insistance même qu'il met, Maître Eckhart, à montrer aux âmes le seul bien désirable. Il semble que ça a été provoqué par la misère matérielle et morale du siècle. On voit ça encore aujourd'hui. Hein. La misère matérielle et morale de notre civilisation occidentale actuellement font que bien des gens en arrivent à n'aspirer plus qu'à Dieu. Le monde n'a-t-il jamais mieux mérité que s'appeler une terre d'exil, une vallée de larmes qu'à cette époque et à la nôtre? Mais plus encore, depuis son deuxième voyage à Paris, Maître Eckhart disparaît derrière son œuvre. Seul le bienheureux Henri Suzot nous apporte quelques reflets de lui. Aucune anecdote ne le situe, pour nous, là, dans sa vie publique ou sa vie privée. Il va rentrer en pleine lumière à partir de 1326 et hélas, il va mourir entre février 1327 et le début de 1329. On ne sait même pas la date de sa mort, c'est triste, hein? À Cologne, semble-t-il, qu'il soit mort. Peut-être est-il mort aussi en route durant un voyage qui le reconduisait d'Avignon à sa province d'Allemagne. Le lieu est incertain, la date presque aussi imprécise que celle de sa naissance. Je trouve que c'est à pleurer qu'un si grand homme soit disparu comme ça. Et en même temps qu'il enseigne et qu'il prêche, Maître Eckhart a travaillé à sa grande Opus Tripartitum, une œuvre en trois parties. On en ignore la date, mais il l'a sans doute entreprise après son retour en Allemagne vers 1314, car c'est là l'œuvre d'un homme parvenu à la maturité, une maturité où il permet de mettre en ordre toutes ses connaissances. Maître Eckhart a l'intention d'y exposer toute sa doctrine en s'appuyant sur la triple autorité de la Bible, de frère Thomas, donc saint Thomas d'Aquin, et de la raison. Nos maîtres spirituels ne sont pas déraisonnables. C'est pour ça que j'aime tant l'Église catholique, quand je la considère dans ses grands personnages. Ce professeur, Maître Eckhart, a voulu répondre au désir de ses élèves qui souhaitaient retrouver ce qu'ils ont entendu dans des cours, dans ses cours, dans ses sermons, dans les autres exercices qu'il faisait d'école, à l'école, dans ce qu'on appelle l'école. Et puis, son œuvre va donc contenir des interprétations des nombreux textes des deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, surtout celles, dit-il, qu'ils ne se souviennent pas d'avoir lu ou entendu, parce que le Nouveau et l'inaccoutumé exercent sur l'esprit plus de charme que les interprétations habituelles, même meilleures et plus importantes. C'est vrai que quand on lit dans les évangiles des textes qui ne viennent pas dans la liturgie ou qui ne nous reviennent pas souvent à la mémoire, on reste ébloui tout à coup devant la nouveauté de ce qu'on a lu il y a 5 ans, 10 ans. Maître Eckhart a donc conscience de s'éloigner des chemins battus. Il se fait pas un titre de gloire de son originalité, c'est pas son genre. Il n'ignore pas que parmi ses propositions, comme on dit, propositions, questions et expositions, c'est les termes latins, ça, quand un professeur enseigne, bien, ces propositions, ces questions, ces expositions, certaines peuvent à première vue paraître monstrueuses, douteuses ou fausses. Hein? Mais il déclare aussi qu'on en jugera tout autrement si on les examine avec soin. C'est ça qui est important. Car souvent on accuse Maître Eckhart d'avoir dit des choses abominables. Mais c'est pas vrai, il faut aller au fond. Puis il faut relire l'Écriture, il faut relire le témoignage des saints, il faut relire le Nouveau Testament. Les lectures d'Eckhart recouvrent la plus grande partie de la science contemporaine. Étudiant puis maître dans un ordre dominicain qui sont voués à la doctrine, il a si bien nourri sa pensée de tous les auteurs anciens et modernes qu'il leur fait des emprunts plus ou moins conscients. Il est difficile par conséquent de savoir s'il les connaît directement ou par des ouvrages de seconde main. Si la pensée de Maître Eckhart a la réputation d'être difficile, l'explication la seule valable, pourtant la seule honnête aussi, consiste à essayer de comprendre Maître Eckhart comme il s'est compris lui-même, comme il souhaite être compris. Aussi, il est grand. On peut en faire le plus grand, qui dépasse tout son temps, peut-être. Mais enfin, c'est un personnage historique, c'est pas un mythe. Maître Eckhart est un homme du Moyen-Âge, voué à Dieu dès sa jeunesse. Un religieux, un dominicain, honoré par la confiance de ses frères. Il était un dignitaire de son ordre magnifique et dominicain. Quel ordre admirable! Il était professeur d'université, il était théologien. C'est un homme, un prêtre qui dit sa messe, oui, qui reçoit les sacrements, qui dispense aussi les sacrements. C'est donc une évidence que d'affirmer qu'il adhère d'abord au Christ, à l'Évangile, à l'Église et à tout le credo catholique. Je sais bien que certaines personnes qui ont étudié Eckhart se sont appliquées à minimiser sa foi catholique. Même, ils prétendent qu'ils contestaient la foi catholique, c'est ridicule, ils ne l'ont pas lu comme il faut. C'est ne rien comprendre à Maître Eckhart. Pour étudier la pensée d'Eckhart, il convient de considérer non seulement son œuvre allemande, mais aussi ses textes latins. D'ailleurs, selon les propres dires de Maître Eckhart, les textes latins forment le corps de sa doctrine, parce qu'il les a écrits lui-même, alors qu'il a nié, n'est-ce pas, l'authenticité de certains textes qui étaient tirés de ses sermons, parce que ça avait été écrit, ça, pendant qu'il parlait d'abondance par les sœurs dominicaines ou d'autres, et qui circulait déjà de son vivant sous son nom. Il y a même des textes que l'on a patentés pour dire que c'était de Maître Eckhart pour les faire lire. Pour lui, Dieu est l'être, l'être en soi, la plénitude de l'être. Il l'affirme à 100 reprises, Maître Eckhart. Il est en accord avec toute la scolastique, toute la théologie. Dieu n'est connu qu'en lui-même et par lui-même. Il n'oublie jamais cette parole de Dieu. « Je suis qui je suis. » Ego sum qui sum. Pour tout ce qui est étranger à sa nature, il reste le Dieu caché d'Isaïe. Nous ne pouvons parler de lui que selon notre mode de pensée, à partir des choses qui nous sont connues. Comment parler de Dieu autrement, hein? Mais Dieu transcende tout concept et tous les termes que nous lui appliquons. Pour nous, par exemple, on parle de la bonté puis de la miséricorde, hein, c'est la neuvaine de la miséricorde. Alors on parle de la bonté et de la miséricorde, ce sont des perfections de Dieu. La colère et la haine, ce seraient des imperfections pour nous. Mais au contraire, nous parlons de la miséricorde et de la colère de Dieu. Et sous le mot colère, il faut bien comprendre ce qui se cache sous ce mot. Dieu n'est pas coléreux. Encore, comment expliquer? Nous voulons dire que certaines de ses œuvres, comme l'explique Maître Eckhart, sont analogues à celles que produisent en nous la miséricorde et la colère. Les distinctions que nous établissons entre ces attributs, ces qualités, puissance, sagesse, bonté, mais ce sont des catégories, si vous voulez, de notre entendement. C'est comme ça que nous, dans notre petite intelligence d'êtres humains, nous comprenons les choses. Mais Dieu est simple, dans le sens que Dieu est un. Dieu est quoi? Dieu est. Alors voilà les affirmations les moins inadéquates que nous pouvons prononcer sur Dieu, de dire qu'il est. Alors Eckhart désigne par le terme Dieu, le Dieu trinitaire, le Dieu créateur, alors qu'il emploie plus volontiers le mot « déité » pour nommer l'essence divine. Origine, affirme-t-il, de la diffusion des trois personnes. Là encore, il ne s'agit pas d'une distinction due à notre mode de comprendre, car ne peut y avoir, évidemment, d'antériorité en ce qui n'a ni commencement ni fin. Il n'y a pas de commencement ni de fin en Dieu. Dieu est. Un point, c'est tout. Mais quand on parle de lui comme il l'a fait, il risque d'être mal compris. De toute façon, pour Eckhart, comme pour saint Thomas et toute la scolastique, ce qu'on appelle les idées des choses créées sont en Dieu. C'est un terme philosophique, les idées. Les idées des choses créées sont en Dieu, acte pur, comme dans leur exemplaire éternel. Donc, elles sont ni différentes de Dieu, ni différentes l'une de l'autre. Et encore, faut-il se comprendre? Il dit à un moment donné, l'être même n'a besoin de rien, parce que rien ne lui manque. C'est Dieu, ça. Mais toutes choses ont besoin de lui, parce que rien n'est en dehors de lui. On trouve ça d'ailleurs dans l'Exode, au chapitre 3. Oui, chez les Juifs, quelle religion admirable que celle des Juifs dont nous sommes les héritiers. Rendons grâce aux Juifs d'avoir entendu les messages de Dieu il y a déjà 3 000 ans, ou 2 500 ans. C'est tellement merveilleux. L'être même n'a besoin, l'être, avec un E majuscule, n'a besoin de rien parce que rien ne lui manque. Mais toutes choses, c'est nous ça, ont besoin de lui parce que rien n'est en dehors de lui. Parce que Dieu est à l'intérieur de la créature et la pénètre. Elle se nourrit de lui. En même temps, elle aspire à lui. Parce qu'il lui est extérieur. L'âme désire Dieu. L'âme désire Dieu. Issue de lui, elle doit retourner à lui, qui est sa fin. Comme il est son commencement. Maître Eckhart écrit des beaux textes. Je pourrais vous en lire pendant des heures et des heures. Par la création, Dieu dit, fait savoir, conseille, ordonne à toutes les créatures, du fait même qu'il les crée, de le suivre, de le prendre pour fin, de retourner en hâte vers lui, cause première de tout leur être, conformément à ses mots, les fleuves retournent au lieu d'où ils viennent. C'est dans l'Ecclésiaste au chapitre 1. C'est pourquoi, ajoute Maître Eckhart, la nature de la créature veut qu'elle aime Dieu plus qu'elle m'aime. L'origine et la fin, le bien et la fin sont identiques. Ah, il dit des choses qui nous rapprochent du bouddhisme à certains moments. L'homme qui vient à Dieu est présent au monde par son corps, il est vrai, mais il est hors du monde par son esprit et son désir. Ils n'appartiennent pas à ce monde, dit le Christ, comme moi-même je ne lui appartiens pas. C'est dans Saint Jean, chapitre 3. Il ajoute, toute la perfection de l'homme, ça c'est presque du bouddhisme, toute la perfection de l'homme est d'être, et de la femme aussi, faut pas oublier, toute la perfection de l'homme est d'être séparé et dépouillé de la créature, de se comporter de la même façon en tout et envers tout, de ne pas se réjouir, s'effrayer ou s'affliger d'une chose plus que de l'autre. Et quoi que cela paraisse ardu et difficile, c'est pourtant aisé et nécessaire. Aisé, premièrement, parce que pour celui qui a goûté l'esprit, toute chair paraît insipide. La douceur infinie dans laquelle on goûte Dieu anéantit toute autre chose. Oh oui, la douceur infinie dans laquelle on goûte Dieu anéantit toute autre chose. Deuxièmement, parce que pour celui qui aime vraiment, toutes choses extérieures et étrangères à Dieu, c'est-à-dire extérieures à l'être, sont pur néant. Les valeurs des choses ne sont grandes qu'en Dieu. Alors c'est donc la pauvreté en esprit, celle-là même que recommande l'Évangile, que Maître Eckhart prêche aux commençants comme aux plus avancés. Voie de purification, voie d'illumination, voie d'union. Les trois étapes classiques de la vie mystique ne sont successives qu'en théorie. On est toujours en marche sur la voie de la du plus parfait abandon, dont je vous parlerai bientôt en parlant d'une religieuse québécoise, des Sœurs de la Providence. Il écrit, jamais encore personne ne s'est assez renoncé en cette vie pour qu'il ne puisse trouver à se renoncer davantage. C'est extrêmement important. L'âme avancée dans la voie spirituelle, mystique, sent, goûte l'union de l'âme à Dieu par la grâce. Le vocabulaire usuel prête tant bien que mal ces termes pour définir l'indéfinissable. Il écrit, Maître Eckhart, celui qui aime Dieu ne l'aime pas à cause de sa sagesse ou de son éternité. Elles ne lui font pas aimer davantage, mais il les aime parce qu'elles sont Dieu. Il n'aime rien d'autre en elles parce qu'il a tout en Dieu, parce que Dieu est pour lui toute chose. Il dit aussi, quand l'âme reçoit un baiser de la déité, elle acquiert sa plus grande perfection et sa plus grande béatitude. Mais oui. Il écrit aussi des choses superbes. Cette véritable possession de Dieu se situe dans l'âme dont l'intention intérieure et spirituelle est dirigée vers Dieu, non pas dans une pensée continue et toujours semblable, car ce serait impossible, ou très difficile à la nature, et ce ne serait pas non plus le mieux. L'homme ne doit pas se contenter d'un Dieu qu'il pense, car lorsque la pensée s'évanouit, Dieu s'évanouit aussi. Bien plutôt, on doit posséder un Dieu dans son essence, loin au-dessus des pensées de l'homme et de toute créature. Ce Dieu ne s'évanouit pas, à moins que l'homme ne se détourne volontairement de lui. Il ajoute, « Ah, c'est superbe, qui possède ainsi Dieu dans son essence, saisit Dieu selon le mode de Dieu, et pour lui Dieu resplendit en toutes choses, car toutes choses ont pour lui le goût de Dieu, et il voit son image partout. » Les saints voyaient Dieu dans une fleur qui pousse dans un brin d'herbe. Les saints voient Dieu dans un grain de sable. Prenez sur la plage cet été une poignée de sable. Et regardez les grains et différenciez-les. Vous verrez comme il y en a des noirs, des roses, des orangés, des blancs. C'est de toute beauté, du sable. Bien oui. Et regardez les nuages qui passent dans le ciel. Gonflés, beaux. Qui laisse le soleil passer, la lumière, la douce lumière, et même la lumière grise d'aujourd'hui qui nous rend plus intérieure et qui nous laisse dans l'espérance des plus beaux jours du printemps. Tout est grand et tout est beau, et la terre actuellement, sous la pluie, l'humidité, fera jaillir les plus belles choses. Maître Eckhart dit de la même manière que celui qui ressent violemment une grande soif peut bien faire autre chose que boire et avoir aussi d'autres pensées, mais qu'il fasse n'importe quoi, ou soit avec n'importe qui, ou quelle que soit son intention, sa pensée ou son occupation. L'image de la boisson ne le quitte pas tout le temps que dure sa soif. Et plus la soif est grande, plus l'image de la boisson est intense, intérieure, présente et continue. Ou encore, celui qui aime une chose ardemment et de toutes ses forces, en sorte qu'il n'a de goût ni de cœur à quoi que ce soit d'autre, ne pense qu'à cet objet et absolument rien d'autre. Oui, il faut penser à Dieu, à cette doctrine de la naissance du Verbe dans l'âme, qui n'est renoncé, qui s'est renoncé, est au cœur même de la mystique de Maître Eckhart, le foyer qui l'éclaire toute. Sa doctrine est essentiellement celle de l'identification au Christ médiateur, chef du corps dont les chrétiens sont les membres. Nous sommes le corps mystique. C'est la théologie moderne qui nous l'enseigne avec beaucoup de grâce. Les textes de saint Paul surabondent de la pensée de Maître Eckhart. Si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Et la pensée de Maître Eckhart se retrouve dans le Nouveau Testament. Rien de vraiment spécial. Il convient de lire les textes d'Eckhart dans la perspective des petites explications que je viens de vous donner, si vous voulez vivre avec Maître Eckhart. Il y a un très beau livre, Maître Eckhart et la mystique rhénane, dans la collection Maître spirituel, toujours de Jeanne Ancelet-Eustache, aux éditions du Seuil. Je vous rappelle trois livres de sermons aux éditions du Seuil, et aussi ce livre, je ne sais pas si on le retrouve encore, Maître Eckhart, traités et sermons chez Aubier. Il y a beaucoup d'autres livres sur Maître Eckhart.